Chapitre 5. L'automne était venu. Les Duroy avaient passé à Paris tout l'été, menant une campagne énergique dans la vie française en faveur du nouveau cabinet pendant les courtes vacances des députés. Quoi qu'on fût seulement dans les premiers jours d'octobre, les chambres allaient reprendre leurs séances car les affaires du Maroc devenaient menaçantes. Personne, au fond, ne croyait à une expédition vers Tanger, bien que, le jour de la séparation du Parlement, un député de la droite, le comte de Lambert Sarrazin, dans un discours plein d'esprit, applaudi même par les centres, eut offert de parier et de donner en gage sa moustache, comme avait fait jadis un célèbre vice-roi des Indes contre les favoris du chef du conseil, que le nouveau cabinet ne se pourrait tenir d'imiter l'ancien et d'envoyer une armée à Tanger en pendant à celle de Tunis, par amour de la symétrie, comme on met deux vases sur une cheminée. Il avait ajouté:
la terre d'Afrique est en effet une cheminée pour la France, messieurs, une cheminée qui brûle notre meilleur bois, une cheminée à grand tirage qu'on allume avec le papier de la banque. Vous vous êtes offert la fantaisie artiste d'orner l'angle de gauche d'un bibelot tunisien qui vous coûte cher. Vous verrez que Monsieur Marot va vouloir imiter son prédécesseur et orner l'angle de droite avec un bibelot marocain.
Ce discours, demeuré célèbre, avait servi de thème à Duroy pour 10 articles sur la colonie algérienne, pour toute sa série interrompue lors de ses débuts au journal, et il avait soutenu énergiquement l'idée d'une expédition militaire, bien qu'il fût convaincu qu'elle n'aurait pas lieu. Il avait fait vibrer la corde patriotique et bombarder l'Espagne avec tout l'arsenal d'arguments méprisants qu'on emploie contre les peuples dont les intérêts sont contraires aux vôtres. La vie française avait gagné une importance considérable à ses attaches connues avec le pouvoir. Elle donnait, avant les feuilles les plus sérieuses, les nouvelles politiques, indiquait par des nuances les intentions des ministres, ses amis, et tous les journaux de Paris et de la province cherchaient chez elle leurs informations. On la citait, on la redoutait, on commençait à la respecter. Ce n'était plus l'organe suspect d'un groupe de tripoteurs politiques, mais l'organe avoué du cabinet. La Roche-Mathieu était l'âme du journal et Duroy son porte-voix. Le père Walter, député muet et directeur côteleux, sachant s'effacer, s'occupait dans l'ombre, disait-on, d'une grosse affaire de mine de cuivre au Maroc. Le salon de Madeleine était devenu un centre influent, où se réunissaient chaque semaine plusieurs membres du cabinet. Le président du conseil avait même dîné 2 fois chez elle, et les femmes des hommes d'État, qui hésitaient autrefois à franchir sa porte, se vantait à présent d'être ses amis, lui faisant plus de visites qu'elle n'en recevait d'elle. Le ministre des Affaires étrangères régnait presque en maître dans la maison. Il y venait à toute heure, apportant des dépêches, des renseignements, des informations qu'il dictait soit au mari, soit à la femme, comme s'ils eussent été ses secrétaires. Quand Duroy, après le départ du ministre, demeurait seul en face de Madeleine, il s'emportait avec des menaces dans la voix et des insinuations perfides dans les paroles contre les allures de ce médiocre parvenu. Mais elle haussait les épaules avec mépris, répétant « Fais-en autant que lui, toi, deviens ministre, et tu pourras faire ta tête. » Jusque-là, tais-toi. Il frisait sa moustache en la regardant de côté. « On ne sait pas de quoi je suis capable, » disait-il, « on l'apprendra peut-être un jour. » Elle répondait avec philosophie « Qui vivra, verra. » Le matin de la rentrée des chambres, la jeune femme, encore au lit, faisait 1000 recommandations à son mari, qui s'habillait afin d'aller déjeuner chez M. Laroche-Mathieu et de recevoir ses instructions avant la séance pour l'article politique du lendemain dans la vie française. Cet article devant être une sorte de déclaration officieuse des projets réels du cabinet. Madeleine disait « Surtout n'oublie pas de lui demander si le général Belloncle est envoyé à Oran comme il en est question. » Cela aurait une grande signification. Georges, nerveux, répondit « Mais je sais aussi bien que toi ce que j'ai à faire. Fiche-moi la paix avec tes rabâchages. » Elle reprit tranquillement « Mon cher, tu oublies toujours la moitié des commissions dont je te charge pour le ministre. » Il grogna « Il m'embête, ton ministre, à la fin. C'est un serin. » Elle dit avec calme « Ce n'est pas plus mon ministre que le tien. Il t'est plus utile qu'à moi. » Il s'était tourné un peu vers elle en ricanant « Pardon, il ne me fait pas la cour à moi. » Elle déclara lentement « À moi non plus, d'ailleurs. mais il fait notre fortune. » Il se tut, puis après quelques instants, « Si j'avais à choisir parmi tes adorateurs, j'aimerais encore mieux cette vieille ganache de Vaudrec. Qu'est-ce qu'il devient, celui-là? Je ne l'ai pas vu depuis 8 jours. » Elle répliqua sans s'émouvoir. « Il est souffrant. Il m'a écrit qu'il gardait même le lit avec une attaque de goutte. Tu devrais passer prendre de ses nouvelles. Tu sais qu'il t'aime beaucoup et cela lui ferait plaisir. » Georges répondit « Oui, certainement. J'irai tantôt. » Il avait achevé sa toilette et son chapeau sur la tête, il cherchait s'il n'avait rien négligé. N'ayant rien trouvé, il s'approcha du lit et embrassa sa femme sur le front. « À tantôt, ma chérie. Je ne serai pas rentré avant 7 heures au plus tôt. » Et il sortit. Monsieur Laroche-Mathieu l'attendait, car il déjeunait à 10 heures ce jour-là, le conseil devant se réunir à midi, avant la réouverture du Parlement. Dès qu'ils furent à table, seuls avec le secrétaire particulier du ministre, Madame Laroche-Mathieu, n'ayant pas voulu changer l'heure de son repas, du roi parla de son article. Il en indiqua la ligne, consultant ses notes griffonnées sur des cartes de visite, puis quand il eut fini, « Voyez-vous quelque chose à modifier, mon cher ministre ?»«
Fort peu, mon cher ami. Vous êtes peut-être un peu trop affirmatif dans l'affaire du Maroc. Parlez de l'expédition comme si elle devait avoir lieu, mais en laissant bien entendre qu'elle n'aura pas lieu et que vous n'y croyez pas le moins du monde. Faites que le public lise bien entre les lignes que nous n'irons pas nous fourrer dans cette aventure. »
« Parfaitement. J'ai compris et je me ferai bien entendre. Ma femme m'a chargé de vous demander à ce sujet... si le général Belloncle serait envoyé à Oran. Après ce que vous venez de dire, je conclus que non. » L'homme d'État répondit « Non. » Puis on causa de la session qui s'ouvrait. Laroche-Mathieu se mit à pérorer, préparant l'effet des phrases qu'il allait répandre sur ses collègues quelques heures plus tard. Il agitait sa main droite, levant en l'air tantôt sa fourchette, tantôt son couteau, tantôt une bouchée de pain, et sans regarder personne, s'adressant à l'assemblée invisible. Il expectorait son éloquence liquoreuse de beau garçon bien coiffé. Une très petite moustache roulée, redressée sur sa lèvre, deux pointes pareilles à des queues de scorpion, et ses cheveux huilés de brillantine, séparés au milieu du front, arrondissaient sur ses tempes deux bandeaux de bellâtre provincial. Il était un peu trop gras, un peu bouffi, bien que jeune. Le ventre tendait son gilet. Le secrétaire particulier mangeait et buvait tranquillement, accoutumé sans doute à ses douches de faconde. Mais du roi, que la jalousie du succès obtenu mordait au cœur, songeait « Va donc, ganache, quel crétin que ces hommes politiques !» Et comparant sa valeur à lui, à l'importance bavarde de ce ministre, il se disait « Christi, si j'avais seulement 100 000 francs nets pour me présenter à la députation dans mon beau pays de Rouen, pour rouler dans la patte de leur grosse malice mes braves normands finaux et lourdeaux, quel homme d'État je ferais, à côté de ces polissons imprévoyants. » Jusqu'au café, M. Laroche-Mathieu parla. Puis, ayant vu qu'il était tard, il sonna pour qu'on fît avancer son coupé, et, tendant la main au journaliste, « J'ai bien compris, mon cher ami. » « Parfaitement, mon cher ministre, comptez sur moi. » Et Duroy s'en alla tout doucement vers le journal pour commencer son article, car il n'avait rien à faire jusqu'à 4 heures. À 4 heures, il devait retrouver rue de Constantinople Madame de Marel, qu'il y voyait toujours régulièrement 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. Mais en rentrant de la rédaction, on lui remit une dépêche fermée. Elle était de Madame Walter, et disait « Il faut absolument que je te parle aujourd'hui. C'est très grave, très grave. » « Attends-moi à 2 heures, rue de Constantinople. Je peux te rendre un grand service. Ton ami jusqu'à la mort, Virginie. » Il jura « Nom de Dieu, quel crampon !» Et, saisi par un accès de mauvaise humeur, il ressortit aussitôt trop irrité pour travailler. Depuis 6 semaines, il essayait de rompre avec elle sans parvenir à lasser son attachement acharné. Elle avait eu, après sa chute, un accès de remords épouvantable et... dans 3 rendez-vous successifs, avait accablé son amant de reproches et de malédictions. Ennuyé de ces scènes, et déjà rassasié de cette femme mûre et dramatique, il s'était simplement éloigné, espérant que l'aventure serait finie de cette façon. Mais alors, elle s'était accrochée à lui éperdument, se jetant dans cet amour comme on se jette dans une rivière avec une pierre au cou. Il s'était laissé reprendre par faiblesse, par complaisance, par égard. Et elle l'avait emprisonné dans une passion effrénée et fatigante. Elle l'avait persécuté de sa tendresse. Elle voulait le voir tous les jours, l'appeler à tout moment par des télégrammes, pour des rencontres rapides au coin des rues, dans un magasin, dans un jardin public. Elle lui répétait alors, en quelques phrases, toujours les mêmes, qu'elle l'adorait et l'idolâtrait. Puis elle le quittait en lui jurant qu'elle était bien heureuse de l'avoir vu. Elle se montrait tout autre qu'il ne l'avait rêvé, essayant de le séduire avec des grâces puériles, des enfantillages d'amour ridicules à son âge. Étant demeurée jusque-là strictement honnête, vierge de cœur, fermée à tout sentiment, ignorante de toute sensualité, ça avait été tout d'un coup chez cette femme sage, dont la quarantaine tranquille semblait un automne pâle après un été froid, ça avait été une sorte de printemps fané, plein de petites fleurs mal sorties et de bourgeons avortés. Une étrange éclosion d'amour de fillette, d'amour tardif, ardent et naïf, fait d'élans imprévus, de petits cris de 16 ans, de cajoleries embarrassantes, de grâces vieillies sans avoir été jeune. Elle lui écrivait 10 lettres en un jour, des lettres niaisement folle, d'un style bizarre, poétique et risible, orné comme celui des Indiens, plein de noms de bêtes et d'oiseaux. Dès qu'ils étaient seuls, elle l'embrassait avec des gentillesses lourdes de grosses gamines, des mous de lèvres un peu grotesques, des sauteries qui secouaient sa poitrine trop pesante sous l'étoffe du corsage. Il était surtout écœuré de l'entendre dire « mon rat, mon chien, mon chat, mon bijou, mon oiseau bleu, mon trésor » et de la voir s'offrir à lui chaque fois avec une petite comédie de pudeur enfantine, de petits mouvements de crainte qu'elle jugeait gentils et de petits jeux de pensionnaire dépravé. Elle demandait « à qui cette bouche-là » et quand il ne répondait pas tout de suite « c'est à moi ». Elle insistait jusqu'à le faire pâlir d'énervement. Elle aurait dû sentir, lui semblait-il, qu'il faut en amour un tact, une adresse, une prudence et une justesse extrême, que s'étant donnée à lui, elle, mûre, mère de famille, femme du monde, elle devait se livrer gravement, avec une sorte d'emportement contenu, sévère, avec des larmes peut-être, mais avec les larmes de Didon, non plus avec celles de Juliette. Elle lui répétait sans cesse « Comme je t'aime, mon petit !» M'aimes-tu autant, dis, mon bébé? Il ne pouvait plus l'entendre prononcer mon petit ni mon bébé sans avoir envie de l'appeler ma vieille. Elle lui disait, quelle folie j'ai faite de te céder, mais je ne le regrette pas, c'est si bon d'aimer. Tout cela semblait à Georges irritant dans cette bouche. Elle murmurait, c'est si bon d'aimer, comme l'aurait fait une ingénue au théâtre. Et puis, elle l'exaspérait par la maladresse de sa caresse, devenue soudain sensuelle sous le baiser de ce beau garçon qui avait si fort allumé son sang. Elle apportait dans son étreinte une ardeur inhabile et une application sérieuse qui donnait à rire à Duroy et le faisait songer au vieillard qui essaie d'apprendre à lire. Et quand elle aurait dû le meurtrir dans ses bras, en le regardant ardemment de cet œil profond et terrible qu'ont certaines femmes défraîchies, superbes en leur dernier amour, quand elle aurait dû le mordre de sa bouche muette et frissonnante, en l'écrasant sous sa chair épaisse et chaude, fatiguée mais insatiable, elle se trémoussait comme une gamine et zézayait pour être gracieuse. « T'aimes tant, mon petit, t'aimes tant, fais un beau amour à ta petite femme. » Il avait alors une envie folle de jurer, de prendre son chapeau et de partir en tapant la porte. Il s'était vu souvent, dans les premiers temps, rue de Constantinople. Mais Duroy, qui redoutait une rencontre avec Madame de Marelle, trouvait 1000 prétextes maintenant pour se refuser à ses rendez-vous. Il avait dû alors venir presque tous les jours chez elle, tantôt déjeuner, tantôt dîner. Elle lui serrait la main sous la table, lui tendait sa bouche derrière les portes. Mais lui s'amusait surtout à jouer avec Suzanne, qui l'égayait par ses drôleries. Dans son corps de poupée s'agitait un esprit agile et malin, imprévu et sournois, qui faisait toujours la parade comme une marionnette de foire. Elle se moquait de tout et de tout le monde avec un à-propos mordant. Georges excitait sa verve, la poussait à l'ironie, et ils s'entendaient à merveille. Elle l'appelait à tout instant. « Écoutez, belle amie, venez ici, belle amie !» Il quittait aussitôt la maman pour courir à la fillette qui lui murmurait quelques méchancetés dans l'oreille, et ils riaient de tout leur cœur. Cependant, dégoûté de l'amour de la mère, il en arrivait à une insurmontable répugnance. Il ne pouvait plus la voir, ni l'entendre, ni penser à elle sans colère. Il cessa donc d'aller chez elle, de répondre à ses lettres et de céder à ses appels. Elle comprit enfin qu'il ne l'aimait plus et souffrit horriblement. Mais elle s'acharna, elle l'épia, le suivit, l'attendit dans un fiacre au store baissé, à la porte du journal, à la porte de sa maison, dans les rues où elle espérait qu'il passerait. Il avait envie de la maltraiter, de l'injurier, de la frapper, de lui dire maintenant « Zut ! J'en ai assez, vous m'embêtez !» Mais il gardait toujours quelques ménagements à cause de la vie française. Et il tâchait, à force de sa froideur, de dureté enveloppée d'égards et même de paroles rudes par moments, de lui faire comprendre qu'il fallait bien que cela finît. Elle s'entêtait surtout à chercher des ruses pour l'attirer rue de Constantinople. Et il tremblait sans cesse que les deux femmes ne se trouvassent un jour nez à nez à la porte. Son affection pour Madame de Marelle, au contraire, avait grandi pendant l'été. Il l'appelait son gamin, et décidément elle lui plaisait. Leurs deux natures avaient des crochets pareils. Ils étaient bien l'un et l'autre, de la race aventureuse des vagabonds de la vie, de ces vagabonds mondains qui ressemblent fort, sans s'en douter, aux bohèmes des grandes routes. Ils avaient eu un été d'amour charmant, un été d'étudiants qui font la noce, s'échappant pour aller déjeuner au dîner à Argenteuil, à Bougival, à Maison, à Poissy, passant des heures dans un bateau à cueillir des fleurs le long des berges. Elle adorait les fritures de Seine, les gibelottes et les matelotes, les tonnelles des cabarets et les cris des canotiers. Il aimait partir avec elle, par un jour clair, sur l'impérial d'un train de banlieue et traverser, en disant des bêtises gaies, la vilaine campagne de Paris où bourgeonnent d'affreux chalets bourgeois. Et quand il lui fallait rentrer pour dîner chez Madame Walter, il haïssait la vieille maîtresse acharnée, en souvenir de la jeune qu'il venait de quitter et qui avait défloré ses désirs et moissonné son ardeur dans les herbes du bord de l'eau.